nous allons accueillir à la table ronde François, Benoît et puis Émilie, Titi et Jojo.
Et comme Masto n'a pas pu venir, donc Jojo est parmi nous et Titi aussi. Donc on va parler beaucoup archives pendant une demi-heure et puis après on partira sur les questions-réponses. En tout cas, merci à tout le monde pour les super interventions de ce matin qui ont... Alors il y a encore plein de choses à dire sur le groupe évidemment, mais on a eu déjà une bonne vision du groupe à travers différentes générations, ce qui était vachement intéressant.
Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, on va, je ne sais pas s'il est besoin de présenter François et les autres, mais Émilie, peut-être toi te présenter.
Ouais. Quand même. Tu te présentes. Non, on se présente très rapidement. Donc, je suis. Fanfan. Alors ce matin, on avait dit que c'est plutôt pas un prénom, mais un surnom que l'on m'a donné. Et puis moi, après, je l'ai transformé vietnamisé en Phang Soi. Donc ça, c'est le pseudo, parce que j'avais pas mal de copains vietnamiens qui m'appellent Phang Soi. Donc je me dis, allez, on va faire ça. Donc voilà, ça rejoint la communication de ce matin sur surnom et pseudo. Et puis dans la vie civile, je suis ingénieur de recherche au CNRS. Dans une institution, enfin dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut d'Asie Orientale à Lyon, au sein de l'ENS de Lyon. Voilà, donc j'ai un travail tout à fait différent, mais on pourra retrouver le fil conducteur quelque part dans cette communication.
Ouais. Donc, bonjour à tous, je suis donc Émilie Caftan, je suis chargée de collection au département de la musique à la BNF. Je suis arrivée en septembre de l'année dernière. Et je travaille en fait à la description des archives et des manuscrits, et donc plus particulièrement du fond de François et de Masto.
Merci. Et donc moi je suis Benoît Caïmaï, je suis l'adjoint au directeur du département de la musique. Et peut-être pour commencer, qu'est-ce que le département de la musique, puisqu'on est là pour parler des archives et du don fait par François et Masto à la Bibliothèque nationale, au département de la musique en particulier. Donc le département de la musique, très très brièvement, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtriez pas, donc c'est un département assez récent, hein, qui est né au début des années 40. Alors je précise, ce n'est pas une création vichysoise, hein, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux avant, mais il s'avère qu'il est né officiellement en 1942. Et qui en fait rapproche trois grandes bibliothèques musicales parisiennes, la bibliothèque du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, la bibliothèque Musée de l'Opéra et le Fonds Musical de la Bibliothèque Nationale. Effectivement, la première question que l'on peut se poser, parce que lorsqu'on voit de comment est né ce département de la musique, et qui a déjà été posé un petit peu ce matin par Marie Lobier, c'est pourquoi, comment la place du rock alternatif dans ce département de la musique qui, au départ et dans sa création, est plus le département de la musique dite savante, qui s'intéresse essentiellement aux grands compositeurs que l'on connaît, Bach, Mozart, Debussy, Boulez, pour ne citer que cela. Et donc voilà, qu'est-ce que... les Bérus viennent faire dans tout ça, et pas que les Bérus, c'est ce qu'on va voir, puisqu'en fait, ce n'est pas tant le don des archives béruriennoires qui ont été données à la Bibliothèque nationale que les archives de François et de Masto. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, pour tout de suite commencer dans le vif du sujet, François, j'aurais envie de te demander... Parce que moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai pris contact avec toi pour te parler de ce projet, de faire rentrer tes archives et celles du groupe dont tu as été l'un des leaders pendant sa durée de vie, moi, la première chose qui m'a frappé quand je t'ai rencontré, c'est que je ne m'attendais absolument pas à trouver autant d'archives chez toi. comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, j'avais relativement bon espoir d'avoir une oreille plutôt bienveillante de la part de François du fait de sa reconversion ou de sa poursuite dans la carrière universitaire. Donc je me suis dit, bon, je vais déjà lui parler un langage qu'il connaît un peu, mais je ne m'attendais absolument pas à retrouver autant d'archives. D'où ma première question, c'est comment est-ce que tu as pu, parce que ces archives remontent à la genèse, donc comment est-ce que tu as constitué tout ce fonds ?
Bon, je vais répondre, mais avant, je veux juste demander à Titi et Jojo de se s'auto-présenter. Oui. Et puis, je reviens sur la question tout de suite après.
Merci. Qu'est-ce qu'il faut dire alors ? Allô ?
Vous
m'entendez ?
Qui es-tu ?
Donc, Titi, Miss Titi. Voilà, j'ai fait partie des BRU, quelle année ? 85 ?
Ah, c'est
80,
tôt, ouais.
Et puis toute la carrière après qui a suivi, jusqu'à 89. Ouais. Qu'il faut dire d'autre ? Ben, mon âge ?
Faut dire d'autre que... Non, ton âge, non. Faut dire d'autre que j'aurais certainement pas continué les BRU sans les Titi.
Voilà. Merci, Fanfan. Ouais. Donc, je suis chanteuse toujours actuellement et mosaïste, voilà. Je vis en Bretagne, à Pornic.
Et tu continues à faire de la musique ?
Toujours.
Toujours.
Et demain, je joue au Réacteur, si vous voulez venir, à 15h. Voilà, pour une demi-heure. Avec mon solo show, et suivi d'un interview filmé par Voto, entre 15 et 16 demain. Bienvenue, merci.
Alors moi, je m'appelle... j'étais appelé Jojo Parelno. J'ai un vrai nom et j'ai un vrai prénom aussi. Comment dire, je suis arrivé dans les BRU parce qu'en tant qu'organisateur de concerts, enfin au départ déjà en tant que fanzine en Belgique, je les avais rencontrés. Et puis de fil en aiguille, il y a eu des concerts en Belgique auxquels on s'est attelé à organiser. Et puis je suis rentré dans la troupe parce qu'ils m'ont trouvé rigolo et que je foutais bien le bordel. Voilà. Et je suis resté jusqu'à la fin.
Non,
donc,
tu n'étais pas drôle du tout, Jojo. Je crois que tu représentais ce qu'a fait Lionel, c'est-à-dire une énergie radicale, vitale, et on avait envie de te coopter dans
comment être radical sans être ridicule ? Voilà.
Ridicule.
Très bonne émission d'ailleurs. Ridicule. Mais voilà. Et j'ai gardé, comment dire, de ce départ dans la musique qui était. À Beru, j'étais toujours intéressé par la musique aussi auparavant. J'ai fait une carrière dans l'industrie musicale pendant 20 ans. Et puis là, maintenant, je suis retourné au prolétariat parce que je crois qu'il n'y a que ça de vrai. Eh bien, je crois que je me suis trompé. Voilà.
Bon, merci, merci Titi, merci Jojo. Je vais donc répondre à Benoît sur cette constitution du fonds. Et c'est vrai que lorsque Benoît m'a contacté, ça devait être en janvier 2000...
Février
2021,
absolument.
Je me suis posé des questions, je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas grand-chose. Je crois que j'ai pas grand-chose, en fait, à te montrer. Et puis, donc, tu es venu chez moi, on a regardé un peu, puis, en fait, au fur et à mesure de l'ouverture des placards, il y avait pas mal de choses. Donc, après, j'ai dit, ah oui, mais il y a ça aussi. Et puis, ah oui, en fait, il y a ça. Ah, puis là, il y a une série de... Voilà. Et donc, du coup, cette constitution du fonds, elle a été très, très progressive et sur le mode d'une chose dont on a peu parlé, en fait, encore aujourd'hui, du « do it yourself », c'est-à-dire de peut-être mon appétence, en tout cas, de conserver toujours des tas de coupures de presse qui m'ont aidé à écrire des titres, d'ailleurs, de coupures de presse, de photos qui m'ont aidé à dessiner, un peu à la mode de Bazooka. Je salue Rémi Pépin qui est dans la salle aussi. Donc je recommande l'ouvrage Rebelle qui est très intéressant sur cette période-là. Et puis donc une constitution progressive et puis rapidement envahissante parce que comme tu l'as vu, j'avais pas mal de boîtes d'archives. Et à un moment donné, vers la fin du groupe, c'était tout un mur de mon salon. Donc ce qui était envahissant, et puis c'est devenu moins envahissant parce que j'ai accumulé tellement de documentation sur le Vietnam pour mes recherches que le fonds BRU est devenu petit par rapport à ce que j'avais sur le Vietnam. Donc c'est pour ça que j'avais pas encore en tête l'importance du fonds. Maintenant, c'est un... Voilà, donc c'est très progressif et c'est lié vraiment structurellement à une paire de ciseaux, à de la colue et à tout ce qu'on pouvait faire. Enfin, comme tu as pu le constater, la construction en fait d'une auto-mémoire presque du groupe. C'est-à-dire que, je l'expliquais tout à l'heure, Best, la grande presse musicale, s'intéressait pas beaucoup à nous. Donc moi, j'envoyais des petites news à Best qui les répercutaient dans les news. Ils avaient une rubrique news en France ou un truc comme ça. Et donc j'étais très content quand je voyais mon bout d'informations republiées dans leur news, jusqu'à ce que, petit à petit... des journalistes comme Jean-Éric Perrin ou Francis Dordor se sont vraiment intéressés au groupe et on nous ont donné un grand coup de pouce pour être popularisés en fait auprès du grand public. Voilà ce que je peux dire sur la constitution même du fond. Elle est presque innée du fait de ma volonté, ma capacité à conserver des documents divers et variés de toutes sortes.
Justement, au départ, c'était tu avais déjà dans l'idée de garder la mémoire de l'histoire du groupe, ou c'était plus quelque chose de sentimental où tu es attaché à ces archives-là, comme tu peux être attaché à d'autres archives liées au Vietnam ou autre chose, ou j'ai des affaires de ta famille.
Ouais, c'est au même titre, même titre que ça. C'est-à-dire que ça fait partie d'une. En fait, je dois avoir un problème avec la mémoire et l'histoire. En réalité, et donc je conserve, comme mes premiers pas dans la conservation, ça a été l'entomologie, j'ai les papillons, les insectes, jusqu'à ce qu'un jour j'ai élevé des espèces de petits coléoptères qui ont bouffé toutes les plantes de ma maman, et donc j'ai dit, je vais arrêter les insectes et puis je vais partir sur le papier. Voilà, donc... Mais il y a toujours une volonté de conserver des photos, même ici, tout ce qui se passe ici, moi ça m'intéresse, même ce bout de papier avec des notes, voilà, il y a toujours un... Et après j'ai compris l'importance que ça avait lorsque j'ai travaillé à un moment donné sur un recrutement d'un poste, ce qu'on appelle en codicologie, sur la génétique des textes et sur tout ce que peuvent raconter en fait les brouillons par rapport à une étape finale. Donc voilà, je m'en suis aperçu, mais... après coup, donc j'étais un peu une sorte d'entomologue sur le tard. Quoi.
Non, parce qu'il faut aussi noter que c'est quand même une masse assez conséquente et c'est pas comme si tu avais été sédentaire. Tu as quand même aussi beaucoup bougé, tu as eu une période de ta vie au Québec et tu as à chaque fois réussi à maintenir ce...
C'est ça, c'est un peu un miracle parce que si je considère les circulations de ce fonds, il est parti de Paris, plutôt de la cave de l'appartement de ma mère, pour partir après sur Ivry-sur-Seine, dans 3 ou 4 lieux différents, à chaque déménagement. Et après, il est parti à Montréal, donc il est parti sur un bateau cargo. Il a été stocké à Montréal, à Côte-des-Neiges. Et puis, il est revenu à Ivry-sur-Seine. Après, il est parti sur Paris. Quand je suis parti à Lyon pour être recruté par le CNRS, il est parti à Lyon, mais une partie, autre partie, est restée à Paris chez notre avocat parce qu'on avait des soucis. Et donc, les archives sont parties chez notre avocat, qui lui-même en a envoyé une partie à Strasbourg, que j'ai réclamé pendant des années, que j'ai pas pu récupérer après 10 ans. Et un jour, on a fait cette résidence fin 2020 à l'entrepôt à Bourges. Pour voir si on était capable de faire de nouvelles choses. Et Gilles, notre avocat, est revenu avec les archives, c'était inespéré, qui avait traîné dans sa cave. Donc il est revenu à Bourges, ce fonds, pour quelques jours. Il est reparti à Lyon avant de définitivement loger à la BNF. Et à vrai dire, c'est un peu un miracle parce que Laurent, lui, s'était fait voler une partie de sa documentation en Bretagne. Et moi, j'ai aussi été victime d'un cambriolage en 2006 à Lyon, où une grande partie de ma malle qui restait, mais tout ce qui était dedans était parti, avec des dessins originaux, avec des masques, avec des poignards, des nunchaku, enfin des tas de choses intéressantes. Et le casque de Macadam Massac, le casque Macadam Vietnam, et d'autres choses qui avaient servi à la scène, plus sans doute des... Bon, je pense que toute ma collection du New Musical Express de 77-78 aussi avait disparu à ce moment-là. Donc, Et voilà, mais donc du coup, après j'ai tout rapatrié chez moi, plus dans la cave, parce que la cave a été défoncée, et je les ai conservés jusqu'à ce qu'on prenne contact. Voilà.
Et Titi et Jojo, vous aviez conscience que François gardait comme ça, ou vous aviez connaissance de ça ou pas du tout
Moi j'ai toujours connu François gardant des choses...
Secrètement.
Et très méticuleux. Bien, voilà, il s'est archivé, il s'est rangé ses choses, soigneux. Pas bordélique comme moi. Parce que moi, j'en ai plein de choses bérues aussi. Mais c'est le bordel, je ne sais pas où c'est dans des cartons. Mais je vais les retrouver. Si je les retrouve, je vous les amènerai.
Ah, bah oui, avec plaisir.
Alors, moi, je n'étais pas au courant du tout qu'il y avait des archives similaires. Moi, personnellement, j'en ai aucune. Parce que j'efface ma matrace. On me retrouve très, très difficilement sur le net et ainsi de suite. Mais quand j'ai appris que les archives ressortaient, ça, quelque part, ça m'a apaisé face à ce vide qu'il y avait un peu, qui a toujours voulu être construit plus ou moins par des gens qui voulaient soit faire des films ou ceci ou cela ou ceci ou cela. Et là, non. C'est la vraie matière qui apparaît et qui, en même temps, en plus, bon, ben voilà, elle est disponible pour... Monsieur tout le monde, je veux dire, quelque part. Donc c'est... J'apprécie fortement. Hein. Ouais. Mais moi, personnellement, j'ai pas grand-chose. Pas grand-chose qui soit resté, non.
Et donc toi, Émilie, donc c'est toi qui es à l'autre bout de la chaîne, donc tu traites ces archives. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, effectivement, c'est un joyeux merdier, comme le dit le titre de la...
Oui, donc on a choisi ce titre. Hein,
il faut lancer les images. On a quelques images.
Oui, en fait, c'est vrai, on a fait un diaporama avec François pour vous donner quelques illustrations du fond. Oui, donc je disais, on a choisi un titre légèrement polémique, mais en fait qui est complètement faux. Parce que, en effet, les archives sont dans un très bon état. En fait, on a... Bien que ce soit des documents qu'on pourrait qualifier de plutôt périssables, c'est vrai que pour...
Les fameuses lunettes de Masto.
Il y a vraiment un soin qui a été apporté par François dans ses archives. Et les archives sont elles-mêmes très bien organisées. C'est-à-dire que les documents sont souvent dans des pochettes plastiques où il y a des annotations très précises en fait qui ont été faites au moment où tu as préparé tes documents pour les donner. Il y a même un répertoire par exemple avec que tu avais dû commencer à faire où tu répertories tous les fanzines, toutes les brochures politiques que tu as avec par titre, tous les numéros. Donc voilà, il y a vraiment un soin en fait qui a été apporté au fond en vue de le donner, et même avant en fait, j'imagine, sans doute pour te repérer aussi dedans pour le réutiliser peut-être aussi.
C'est ça.
Et puis surtout, enfin, il y a une très grande variété en fait de documents qui est dans des proportions assez nouvelles en fait pour le département de la musique. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de documents audiovisuels. Enfin, il y a des costumes et des matériels de scène. On a vu il y a Dédé, mais c'est pas la bonne, tu disais.
Bah, c'est la petite sœur là, et c'est la DRM15. Donc j'ai encore une DRM16 qui traîne, mais comme je me suis fait piquer mes boîtes à rythme au fil du temps, j'ai toujours conservé une nouvelle boîte en cas de...
Voilà, il y a des documents nativement numériques, il y a beaucoup de matériel graphique, hein, comme tu le disais, des maquettes pour des pochettes, du matériel promotionnel, enfin, il y a vraiment une importance du visuel qui est très prégnante. Et puis voilà.
Et justement, en quoi est-ce que ce don est exceptionnel? On l'a vu... Bon, il y a le côté, c'est la première fois que rentre au département de la musique un don d'un groupe de punk, scène rock alternative, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a de particulier ce fonds par rapport au fonds qu'on reçoit habituellement, nous, au département de la musique?
En fait, déjà, ce qui est assez rare par rapport à ce qu'on a déjà, c'est que là, pour le coup, on a vraiment toute la chaîne de la production musicale, avec vraiment ça part de la composition, il y a la production phonographique, le graphisme, la promotion, le marketing, l'organisation des concerts, toutes ces étapes-là, en fait, qui généralement sont éclatées entre plusieurs mains. Et qui en fait là sont concentrés entre les mains des membres des Berruriers Noirs. Alors on a d'un côté François qui était pas mal aussi sur le graphisme. Avec le fond Masto, on a plus la partie photographie. Et donc les personnes qui participent aussi à toutes ces étapes. Mais ça c'est quelque chose qu'on a assez peu parce que c'est aussi une des particularités en fait du mouvement punk de s'organiser. Pour produire sa musique et pour aussi la promouvoir.
Voilà. Je crois que je rejoins ce que tu disais, Benoît, dans plusieurs entretiens, c'est la complétude du fond, c'est-à-dire l'aspect extrêmement large du fond. Ouais, c'est ça. Ben ça, vous demanderez à Jojo, je pense qu'il...
Quand il veut jouer au con, il est très fort.
J'ai une paire de nichons en plastique, ça t'intéresse ?
Ah ouais. Ouais. Très important. Et donc la complétude du fond, c'est ça aussi. Et on a donc un panel on a assez peu de partitions, mais on a beaucoup d'enregistrements et des répétitions, il me semble intéressante, plus des anciennes cassettes qui étaient cassées d'ailleurs, qui vont être réparées sur des qui partent de Berruriers, des anciens Berrus jusqu'aux anges et jusqu'aux anges déchus. Et puis on a toute une documentation importante qui resitue le contexte dont on parlait ce matin, c'est-à-dire les squats, les mouvements radicaux. Alors ça va de l'anarchisme jusqu'à l'extrême droite, parce que à une époque, moi j'accumulais beaucoup de documentation sur nos ennemis potentiels ou virtuels, et donc j'aurais pu être un bon spécialiste comme Jean-Yves Camus des mouvements radicaux d'extrême droite, parce que j'avais énormément d'informations, des grandes revues comme Article 31, Celsius qui était édité aussi en Belgique et d'autres, voilà. Donc il y a toutes des revues Nita Sinan, la revue Nita Sinan, les revues sur Venceremo, sur les prisons. Donc en fait tout notre environnement politique, sociale, dont on a parlé un peu ce matin sur les tables de presse qui accompagnaient le groupe, est disponible dans ce fond. La période, elle concerne 77-2006, globalement. Enfin, il y a une petite... ça va jusqu'à 2020, jusqu'à une dernière expo qui concernait les erronées électriques. Mais 77, parce que c'est vraiment le point de départ visuel, hein, tu as insisté là-dessus, il y a vraiment, pour moi, une... Et ça, Rémi pourra le confirmer, de notre génération, vraiment, on s'appuie énormément sur ce que fait graphiquement en fait les autres groupes, alors Crass, mais Bazooka avant ça et d'autres. Donc la déconstruction de l'image et du discours. Et ça plonge ses racines dans les premières déconstructions en 77 par Bazooka en squattant Libération, et puis dans d'autres visuels très très intéressants qui vont de Crass par le pop group et puis d'autres groupes alternatifs de l'époque. Donc il y a toute une série de fanzines aussi qui ont parlé du groupe avec des entretiens sur le groupe ou du groupe, des fanzines comme Canaille, des fanzines anarcho-punk, il y a beaucoup de choses.
Si je peux me permettre, sur les fanzines et sur la collection que tu pouvais avoir d'albums, en fait, il y a des choses très intéressantes parce que, donc on en a parlé tout à l'heure, il y a le dépôt légal qui existe pour les documents, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les imprimeurs et les éditeurs sont incités à donner un exemplaire, en fait, de leur production dans un dépôt. Et en fait, du coup, ça, c'est des choses qui n'étaient pas du tout présentes à la BNF parce que ça passe par des circuits totalement alternatifs et pas
C'est le dépôt illégal.
Exactement. Donc, du coup, on est en train de combler aussi un manque de ce côté-là.
Oui, c'est moi-même, quand j'ai revu un peu ce qui était parti, ce matin, il y avait une communication faite par Philippe Gonin sur Laurent Groun, où en disant qu'on était nos propres penseurs. Non, je ne crois pas. En fait, on était nourris par différentes influences et différents textes qu'on pourrait sourcer aujourd'hui. Les mémoires de Geronimo, je ne sais pas moi, confession d'un professionnel de la torture sur l'Algérie, d'autres. Voilà, donc on avait aussi tout un ensemble de documents qui ont nourri spécifiquement la pensée ou la construction de Berruyer Noir.
Il y a Mishima aussi, hein, qui rentrait dans ta conception. Il y a eu Mishima aussi.
Mishima aussi, bien sûr. Bah oui, moi j'étais un grand fan de la nouvelle vague japonaise et Mishima était un peu un iconoclaste là-dedans, mais évidemment j'étais très très intéressé par ce que faisaient Nagisa Oshima, Suji Terayama et d'autres, Imamura, d'autres cinéastes et réalisateurs japonais qui ont un peu renversé la table dans les années 60 au Japon. Donc c'est curieux les circulations, parce que vous voyez, il y a des choses qui sont dites autre part, qu'on récupère. Bah, dernièrement, grâce à Yoko Higashi, j'ai fait un atelier avec des étudiantes et étudiants à l'entrepôt à Bourges sur Hacker la guerre, et en hommage à Suji Terayama, à l'empereur Tomato Ketchup. Donc on a un peu comme dans la démarche de Lionel, c'est-à-dire qu'on a redéconstruit le morceau. Yoko a complètement déconstruit le morceau, samplé des bouts et fait une sorte d'oraison funèbre à Terayama. Voilà, donc c'est, je trouve que c'est un fond intéressant pour ça et qui ouvre sur d'autres, plus largement sur le rock alternatif. C'est-à-dire j'ai beaucoup de cassettes aussi, et j'en ai d'autres encore à donner, sur des groupes, bah, ça va de Les Dealers, en passant par La Souris Déglinguée, en passant en fait tous les trucs que je pouvais écouter ou qu'on m'envoyait, par exemple pour Division Nada. Hein, donc des trucs assez, parfois franchement craignos, et parfois franchement classe. Donc il y a tout, mais à mon avis, c'est là où moi je voulais pas faire de biais. C'était à partir du moment où j'avais accumulé cette documentation, il était hors de question pour moi de me dire bon, je fais le tri entre telle ou telle revue. Les chercheurs et chercheuses se débrouilleront avec cette matière. C'est pas à moi de dire voilà. Donc, et l'objet d'ailleurs de cette journée d'études, je voulais même peut-être, enfin j'avais l'ambition de pas apparaître pour ne pas non plus parasiter en fait les communications.
Et donc effectivement, quand je t'entends, c'est là où on voit que c'est vraiment un terme abusif de parler de fond des Berruyer Noir rentré à la BNF, parce qu'en fait c'est pas le fond des Berru, c'est pas le groupe en tant qu'entité, comme personne morale qui a créé ces archives, c'est bien les archives, tes archives à toi, celles de Masto, qui racontent votre parcours à vous, qui rejoint Masto, celui de Laurent parfois ou pas, enfin, bien ou sûr. De Titi, ou de, voilà, mais c'est vraiment plutôt les archives de François Guimau et de Masto,
Plus
que les archives Berruyer Noir.
Masto a fait partie d'un groupe absolument extraordinaire qui s'appelle Lucratmil, que vous connaissez sans doute. Mm-hmm. Gabonier d'ailleurs dans la salle, quelque part. Et donc, avec quand même à l'époque une chanteuse, hein, une chanteuse qui est une artiste peintre, Nina Childress, qui c'est remarquable. Donc c'est véritablement, enfin nous on a eu de la chance quelque part, parce que Masto s'est raccroché à nous et ça a fonctionné. Mais voilà, c'est donc Masto, c'est toute une entité photographique, musicale et une intelligence, une pensée aussi particulière sur l'écologie qui existe, qui a nourri aussi le groupe. Voilà, donc c'est bien de le rappeler, effectivement, ce sont des itinéraires. Ce qui me plaît un peu, moi, dans ce fond, c'est l'aspect, j'en ai parlé très rapidement avec Laure Narlian dans l'entretien sur France Info TV, là. C'est le côté guerre froide, c'est-à-dire que, vous savez, la situation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire que ce fond, il est aussi le reflet d'une situation politique, sociale, à un moment donné où chacun se demandait si on n'allait pas prendre un Pershing sur la tête ou un SS-20, l'Europe étant devenue le champ de bataille privilégié entre les États-Unis et l'URSS. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin, sur ce qui se met en place, et la guerre de Yougoslavie, et en fait la transition avec Molodoy, et encore après la transition avec les Anges Échus et d'autres choses. Mmh. Donc Voilà, c'est un fonds qui a multiples entrées et qui permettra sans doute de raconter quelque chose de la contre-culture ou de ce qui s'est passé dans la tête d'une partie de la jeunesse pendant toutes ces années-là.
Et parce qu'effectivement, c'est tout de suite aussi une des choses que l'on peut se dire et une crainte quand un fonds rentre à la BNF. Souvent, on peut avoir le sentiment que ça rentre dans un coffre-fort. Que plus personne n'y aura accès. Et justement, Émilie, d'après toi, en quoi justement l'entrée de ces deux fonds ne signifie pas une condamnation et une mainmise de la nomenclatura, si je puis dire, sur ce fonds, mais bien un accès à tous? Comment ça peut se définir autrement?
Déjà, on peut dire que ce fonds va être très visible parce que la BNF, c'est quand même un établissement qui est ancien et assez bien identifié et reconnu quand même au niveau national et international. Et puis, l'idée, c'est vraiment de rendre ce fonds accessible à tous, en fait. Alors, déjà à distance, en fait, via la numérisation des documents et leur mise en ligne sur Gallica. Via des outils aussi pour interroger les savoir ce qu'on conserve, et puis ensuite du coup sur place en salle de lecture, les gens qui ont un besoin documentaire qui sont intéressés en fait par ces deux fonds peuvent venir en salle de lecture les consulter, hein. Il n'y a pas besoin d'être chercheur pour venir à la BNF, il suffit juste en fait d'avoir un besoin documentaire et de venir. Un des autres aspects aussi, c'est que une des missions de la BNF, c'est quand même de conserver ces documents. C'est de les garder en bon état le plus longtemps possible. Et pour ça, on est quand même. On met en place en fait des procédures. Par exemple, au moment où j'ai pris connaissance du fonds, une des premières choses en fait que j'ai mis en place pour le traitement, ça a été de d'écrire en fait les documents audiovisuels parce que les documents audiovisuels, on sait bien que c'est souvent sur des supports en fait qui ont des durées de vie qui sont assez limitées. Donc voilà, on essaye de voir aussi quelles sont les priorités de traitement, d'améliorer aussi le conditionnement des documents, parce que même s'ils sont en très bon état, par exemple les affiches, elles étaient pliées. Ça, c'est plutôt des choses qu'on conserve à plat, c'est quand même des, comme j'ai dit, des matériaux qui sont assez périssables, donc voilà, on va éventuellement les doubler s'il y a besoin. Il y a des documents qui peuvent avoir besoin d'être traités contre d'éventuelles contaminations ou d'infestations, voilà. Et puis surtout en fait on va mettre en place un traitement intellectuel pour ces documents, avec toujours en fait en perspective la mise à disposition du fonds. Donc les archives qui arrivent à la BNF, on ne les garde pas pour nous. On les met vraiment à la disposition. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec les personnes qui nous confient leurs documents.
Il y a une notion de service public qui est très importante.
Exactement. Et du coup, on n'est pas non plus là pour dénaturer le sens de ces archives ou pour se les approprier. Enfin voilà, on joue en fait on est des intermédiaires. On essaye de respecter en fait l'ordre qui a été mis en place par les personnes qui ont produit le fonds. Donc ça c'est une des notions assez importantes en fait dans les archives, qui est la notion de respect du fonds. Et nous en fait on va juste organiser toute notre description dans une structure en fait pour faciliter la recherche et la compréhension de tous ces documents là. Et voilà. C'est un peu le but et ce qu'on peut apporter en fait pour ces documents-là.
Et je voudrais ajouter sur la constitution du fonds et en fait la problématique qui s'est posée à moi dès 2013, lorsque j'ai fait une communication devant un amphi plein d'étudiants sur la trajectoire Beru. S'est posée à moi la question: qu'est-ce que tu vas faire de cette documentation plus tard? Donc j'avais pas beaucoup de solutions, parce que vous savez, même si j'ai des enfants, les enfants c'est trop lourd à récupérer pour soi-même. Donc j'avais la solution de la vente, de faire une vente aux enchères qui soit par exemple pour Amnesty International ou une ONG quelconque, mais bon, ça part chez des particuliers. Faire un don à une institution universitaire, ça a été une grande question, enfin, on en a discuté avec le PIND, et là il faut remercier le PIND aussi de cette journée d'études, parce que tout le travail qui a été fait sur le punk en France, et pas qu'à Paris, hein, en province, tout le réseau, le maillage de la punkitude un peu partout en France et au-delà des frontières françaises d'ailleurs, a été mis à la disposition du public sur la plateforme du PIND. Hein. Toutes les communications qu'on a pu faire sont disponibles sur le PIND. Donc c'est posé à moi à un moment donné la question de verser ces archives au PIND. Et puis, j'avais quelques réticences, si vous voulez, parce qu'en fait, je travaille moi-même dans des fonds d'archives et sur le Vietnam, et j'ai vu beaucoup de choses passer à la trappe lors des désherbages détruites. Et donc, j'étais un peu mitigé sur la pérennité, en fait, de la conservation. Hein, pas tant sur l'utilisation par des chercheurs immédiatement, mais sur la pérennité. Et lorsque Benoît m'a appelé, ça a éclairci un peu plus mon horizon. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai une institution qui est pérenne, qui est intéressée par le projet. Bon, ça aurait pu partir, je ne sais pas moi, à Montréal aussi, puisque d'autres institutions, et c'était un peu dommage. Donc la BNF se proposait, voilà, je pense que d'autres institutions en Europe auraient pu être intéressées, ou aux États-Unis. Vous savez que le fonds, par exemple, concernant les Riot Girls, sont conservés en Californie. Donc, tous les mouvements alternatifs commencent à intéresser maintenant des institutions et des bibliothèques, d'autant plus qu'un certain nombre d'anciennes figures punk, je pense à la chanteuse des Avengers qui travaille maintenant en bibliothèque en Californie, se sont... on proposait à leurs institutions de récupérer une mémoire de ces communautés disparates qui formaient toute la jeunesse marginalisée ou en marge et qu'on essayait de rassembler dans nos concerts. Voilà, donc du coup, quand Benoît m'a appelé, c'était presque naturel, moi travaillant dans une institution qui préservait aussi des documents de chercheurs, de donner une réponse positive. Alors il y a eu un grand débat au sein du PIND sur, et pourquoi tu fais ça, et les BERU c'est une institution anti-étatique, et tu vas rejoindre une institution étatique, et voilà, donc il y avait tout ce dialogue qui est entendable, hein. Mais moi, mon parcours en tant que, j'ai fait une thèse, j'ai été jusqu'au bout d'une certaine logique, il est clair que peut-être si j'étais resté dans la musique et sur des positions ultra radicales par rapport à l'État, j'aurais fonctionné différemment. C'est pas des problématiques simples à résoudre pour moi-même, parce que souvent c'est paradoxal, mais en tout cas moi, ce qui a primé, c'est ce que tu disais Émilie, c'est le service public, le service au public, c'est-à-dire transmettre, essayer de transmettre un maximum de choses à disposition de la recherche et du public en général.
Merci. Alors peut-être que, je vois l'heure qui tourne, on pourrait continuer à échanger comme ça, mais peut-être que la salle souhaiterait échanger aussi.
Voilà, je vous dis juste un mot sur les circulations et sur les pertes. J'ai parlé d'un cambriolage et même peut-être plusieurs cambriolages, mais évidemment, il y a aussi des pertes volontaires. On était dans un tel contexte de tension politique en 88-89 avec Bérurier Noir, plus l'affaire Blackwar et d'autres affaires qui sentait la grosse manip des renseignements généraux, que j'ai brûlé le fichier de nos fans et le courrier de nos fans. Ce que évidemment j'ai regretté après, parce que j'aurais pu trouver une solution pour le cacher ou un coffre-fort quelque part. Mais on était dans une période d'extrême tension et c'est parti en fumée, ce qui est dommage parce que ça aurait donné une bonne illustration de ce dont on parlait ce matin, c'est-à-dire de ce réseau, hein, de ce petit punk qui est dans un village, dans un bled paumé, qui écrit au mouvement de la jeunesse ou à Bérurier Noir, on lui répond, on lui envoie de la doc, et ça fait partie de tout un maillage du réseau social de l'époque. Donc, il y a eu des pertes, Il y a eu des cambriolages, il y a eu des originaux qui ont disparu. Tout le 45 tours sans pan a complètement disparu. Et ça, je pense que c'est lié à la destruction en fait, des documents qu'on envoie chez l'imprimeur et puis qui sont écartés, qui sont mis à la poubelle directement. Donc, il y avait aussi cette... voilà, et c'est un peu une chance hein, que j'ai pu récupérer autant de documents parce que très souvent, dès que c'est imprimé, ça disparaît. Le coup de ciseau et le coup de colle partent... dans la benne, voilà, dans la benne et même pas dans le recyclage, dans la benne générale.
Il y avait des poubelles à faire à l'époque, quoi.
Ouais, bien sûr. Alors, du coup, je suis devenu paranoïaque, j'ai gardé tout le courrier de Molodoy qui va être versé, et donc il y a une résonance de Beru dans le courrier de Molodoy. C'est à peu près 500-600 lettres.
Merci, je ne sais pas s'il y a des questions.
On va prendre quelques questions. Je fais juste une remarque pour clore la discussion sur le fait que ces fonds soient versés et qu'ils soient conservés. Ça implique aussi qu'il y a un travail qui soit fait de mise en valeur qui nous incombe à tous, c'est-à-dire chercheurs, historiens, publics, passionnés. Il faut le donner à vivre, ce fonds, en organisant aussi des manifestations qui le fassent sortir. Il faut non seulement qu'il soit à disposition, mais qu'il soit... qu'on s'en empare et je pense que c'est notre travail à tous de lui donner des occasions de sortir à ce fond.
Alors, je vous propose qu'on bondisse sur des questions-réponses. Ouais.
Ouais. Merci. J'avais deux questions. La première, c'était sur la démarche. On a quand même parlé les dernières semaines dans la grande presse. Est-ce que ça a déjà suscité des vocations chez d'autres groupes? Et deuxième question, quelles sont les règles à la BNF pour accepter des archives? Enfin, supposons qu'il y a un groupe, pour être gentil, on va dire moins connu que les Beru, qui arrive comme ça en disant on a un fonds, mais s'ils ont fait un 45 tours, qu'ils sont passés à la trappe tout de suite, est-ce que c'est intéressant? Voilà.
Alors, pour je réponds et tu compléteras si tu veux, Émilie, pour répondre un peu à donc pour répondre aux questions à cette question. Alors oui, en fait, ce qui est très très bien pour nous BNF, c'est que par le don de François Etmasto, ça a permis d'ouvrir la voie et de montrer que oui. Une institution comme la BNF était intéressée par ça et qu'on n'est pas la bibliothèque qui conserve uniquement le patrimoine de la culture bien pensante, si je puis dire, ou académique ou autre, mais que vraiment tout ce qui fait la fabrique de la culture en France sous toutes ses formes, potentiellement, mais au-delà de la musique, hein, d'ailleurs, là, on parle de musique, mais ça peut être dans l'art, ça peut être dans beaucoup d'autres choses, dans la photographie ou autre, ça intéresse potentiellement la Bibliothèque nationale. Et effectivement, alors je ne peux pas donner de nom ou quoi que ce soit, mais je suis en pourparler avec d'autres groupes, pas forcément dans le milieu punk d'ailleurs, mais effectivement, tout de suite, quand je leur ai dit, bah, vous savez, les Beru, via François et Masto, ont donné tout de suite. Ah oui, les Beru, et ça parle à tout le monde. Et si les Beru donnent, effectivement, ça peut être. Pourquoi pas moi aussi. Et après, pour répondre à votre deuxième question, en fait, c'est pas tant la notoriété qui intéresse la BNF. On n'est pas là pour faire le buzz médiatique. Bon, là, c'est très bien, on en a parlé dans la presse, etc. Mais c'était pas du tout l'intention, ni de moi, ni de François, ni de Masto, de faire parler de nous ou autres. Ce qui vraiment nous intéresse, encore une fois, c'est qu'est-ce qui participe à cette culture en France, internationale, européenne, et qui a pu naître en France ou ailleurs, mais dont les racines auraient un lien avec la France, puisqu'on est là pour s'occuper de, pas nécessairement de ce qui est français, mais de ce qui a un lien avec la France. Les Allemands s'occupent de ce qui est en lien avec l'Allemagne, etc., etc. Et donc, ça peut être parfois des groupes très peu connus, mais qui ont marqué. Et des artistes très connus qui vont dire bah oui, mais moi j'ai été très inspiré par tel autre groupe et sans cet autre petit groupe peu connu, je n'aurais pas existé et tous mes collègues n'auraient pas existé. Donc c'est aussi ça qui va nous intéresser. Après, on n'accepte pas tout non plus. parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce n'est pas parce que le producteur du fonds donne à la Bibliothèque nationale que ça ne coûte pas à la Bibliothèque nationale. Derrière, c'est sûr qu'il y a un coût. Il y a du personnel pour décrire le fonds, il y a du personnel pour reconditionner le fonds, l'estampiller. Il faut des mètres carrés
sont dans la salle.
Qui sont dans la salle. Il faut des mètres carrés pour pouvoir l'héberger. Donc, c'est pas... je ne sais pas si on accepterait le slip. Voilà, j'en suis pas certain. Parce que ça nous... voilà, mais c'est pas... On va pas... En tout cas, notre critère, c'est pas du tout est-ce que vous êtes connu, est-ce que ça va faire le buzz, est-ce que c'est bon pour... voilà, non, c'est pas du tout le critère premier. Bien sûr, après, il y a des groupes connus qui sont incontournables, donc qui forcément marquent l'histoire musicale. Donc, à ce titre-là, ils ont toute leur place. Mais c'est vraiment pas le seul critère du tout qui compte. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions.
Moi, j'ai une question sur la dotation d'archives et les coûts dont vous venez de parler. Alors, je trouve ça formidable que la contre-culture soit ici. Voilà, moi, je réalise des documentaires. Et quand on fait des documentaires sur l'underground, on a souvent peu de moyens. Et l'INA exige des prix exorbitants qui, souvent, peuvent pénaliser l'aboutissement de projets. C'est ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à d'autres personnes. Alors, du coup, désolé, je vais poser un petit peu une question qui fâche. Mais c'est super que les fonds, quand les films arrivent à voir le jour, qu'ils atterrissent chez vous. Mais du coup, par contre, les réalisateurs qui ont été souvent signés à blanc pour les archives ne touchent rien. Donc je voudrais bien voir ce point avec vous. Je suis désolée, je ne pose pas une question très cool. Mais en fait, moi, j'avais laissé mon premier documentaire chez vous. J'en suis ravie. Je n'ai pas touché un centime. Mais là, je n'avais pas de problème d'archives. Là, j'en ai eu et je serais ravie de le laisser chez vous. Mais qu'est-ce que vous proposez en contrepartie ? Parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait un échange par rapport...
Alors, bon, moi, je ne peux pas parler pour l'INA. Hein. Nous ne sommes pas l'INA, donc voilà. Après, bon, il faut savoir que l'utilisation des collections dans un cadre scientifique, universitaire, etc., sont gratuites à partir du moment où les documents en question sont libres de droit. Parce que il faut quand même avoir bien conscience d'une chose, c'est que quand la Bibliothèque nationale recueille des archives, elle ne recueille pas les droits afférents à ces archives. François Guimau reste pleinement propriétaire de ses droits patrimoniaux. Donc dès qu'on est sur du sous-droit, de toute manière, il faut voir avec les ayants droit. Et derrière, effectivement, parfois, lorsque ce sont des projets à but commercial, la Bibliothèque nationale, effectivement, peut demander, peut facturer la reproduction du fonds, etc. Mais c'est parce que derrière, bah, ça mobilise aussi des moyens pour la Bibliothèque nationale. Donc elle refacture cela. Après, moi, je suis pas au fait de la politique tarifaire de la Bibliothèque nationale, hein, mais c'est une des explications. Après, lorsque c'est dans un cadre universitaire, je prends l'exemple des fonds Masto et François. Si vous publiez un livre universitaire et que vous souhaitez dedans y faire figurer un dessin que François aurait fait, il faut l'autorisation de François puisque le droit moral lui appartient toujours. Donc voilà. Mais en revanche, la BNF ne demandera pas. Ne facturera pas l'utilisation de cette image, hormis la reproduction, parce que ça coûte de l'argent et c'est pas un service qui est gratuit à la bibliothèque. Mais au même titre qu'on pourrait dire dans ces cas-là que pourquoi est-ce que la carte de lecteur pour entrer à la Bibliothèque nationale est payante ? Il faut payer pour accéder au fonds puisque la carte de lecteur n'est pas totalement gratuite. Enfin, il y a beaucoup de critères de gratuité, mais ça, c'est une vaste question. Pourquoi, si on donne à un musée, pourquoi est-ce que je dois payer mon entrée au musée ? Même si c'est un musée public. Voilà, après, c'est un autre débat. Je ne sais pas si j'ai...
Oui, alors moi j'avais une question qui est vraiment une question pour les BRU du coup, qui n'a rien à voir avec le fond, mais qui a plutôt à voir avec le titre, la scène punk en France et l'histoire. D'un moment, François, tu as parlé des rapports avec les RG, de toute cette tension qu'il pouvait y avoir. Je comprends pas bien. Moi, je fais partie de la génération des petits frères. Moi, j'ai découvert les Bérus parce que les grands frères écoutaient les Bérus. Et puis, j'ai du mal à voir quel était vraiment le danger que vous pouviez. Alors, c'est juste, tu vois, j'ai envie d'entendre, en fait, c'est juste ça. Oui. Et puis, l'autre question derrière, c'est par rapport à des groupes qui affichaient peut-être moins leur dangerosité par rapport à l'État, comme Ludwig, ou des groupes comme Varumjo, qui étaient un peu plus compliqués niveau texte à. Enfin, qui était moins évident, c'était moins agressif de manière évidente, je dirais. C'était sans doute voilà, plus imagé ou j'en sais rien. Mais comment vous gériez ce truc-là? Déjà, vous, qu'est-ce que ça voulait dire c'est, à cette époque-là, se sentir en danger par rapport à ça? Et est-ce qu'il y avait des échanges avec les autres groupes pour revenir vraiment sur la scène en général aussi? Et est-ce que ces autres groupes, le fait, par exemple, que Ludwig ait ce délire complètement... j'allais dire visuel, mais vous aussi, mais enfin complètement encore plus clownesque et sans avoir des paroles radicales directement, est-ce qu'eux aussi se sentent en danger?
C'est une question extrêmement large, mais ça concerne en fait les rapports de pouvoir entre l'État et la jeunesse, qui avait été déjà dénoncé par Daniel Balavoine face à Mitterrand dans cette entrevue qui était connue, hein, où la jeunesse représentait une forme de danger en France. Enfin, on n'en est plus là, mais encore que, ça dépend des territoires. Et, mais voilà, donc du coup, nous, le mouvement punk était très lié à l'autonomie, à la mort de Bader et consorts, de la fraction Armée Rouge en Allemagne, à toute la dissidence politique radicale qui était un peu partout en Europe. Et évidemment, on était surveillés. Et nous, on s'en est rendu compte quand même assez rapidement, disons de façon très très concrète, à partir des années 88-89. Alors il faut recontextualiser avec les différents pouvoirs qu'il pouvait y avoir à l'époque, mais à partir du moment où vous avez des cambriolages professionnels chez vous, pas de disparition d'argent, mais des calepins, des adresses, des choses qui sont... Voilà, c'est quand même assez trouble, des ouvertures de courrier, des filatures... etc. Et moi, une agression caractérisée d'ailleurs, à mon domicile personnel, lorsque je résidais rue des Moines avec Lulu, donc voilà, par une banque de skinhead. Donc des choses assez concrètes qui font qu'on était sur nos gardes. Et j'ai toujours privilégié non pas l'attaque, mais l'autodéfense. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas à attaquer qui que ce soit, mais à se défendre. Et ça a été d'ailleurs un des enjeux de la constitution du service d'ordre Bérurier Noir, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un service d'ordre parce qu'on a envie d'avoir une garde rapprochée. Non, on crée un service au public, c'est-à-dire un service qui s'occupe de faire que les jeunes marginaux ou les jeunes qui viennent dans nos concerts ne soient pas matraqués à l'entrée du concert par des bandes de faf, etc., etc. Ce qui était aujourd'hui... Enfin, Ça n'existe plus, et tant mieux. Mais à l'époque, c'était dangereux de se rendre sur des lieux de concert. Voilà, on a été dans les bandes, on n'appelait pas ça les antifas, ni. Voilà, mais il y avait des bandes de chasseurs qui chassaient les skins, il y avait des skins il y avait des bandes reconnues sur Paris, il y avait de fortes chances qu'une punkette se fasse déglinguer par des. Voilà, donc il y avait un danger quand même, une mise en danger de la jeunesse qui venait à nos concerts. Nous, le SO faisait un travail extrêmement intéressant parce que c'était à la fois un travail pédagogique qui était tu viens là pour passer un bon moment, réfléchir et puis voilà, et donc dépose les armes. Donc on ramassait, enfin, Dom pourra le certifier, mais des sacs entiers de coups de poing américains, de poignards divers et variés, de bombes lacrymo pour rentrer dans un espace neutre et pacifié pour faire. Voilà, donc après, nos relations avec les autres groupes, elles étaient très très liées à ça aussi. Je me souviens de ce concert avec les Endimanchés ou d'autres, avec les Ludwig, qui étaient moins, eux, embêtés par l'aspect politique, du fait de leur engagement sans doute moindre au niveau des textes, mais qui subissaient aussi la pression de bandes adverses. Voilà, donc il fallait se protéger, et surtout pas nous spécifiquement, mais protéger les jeunes qui avaient entre, je sais pas moi, c'était les mineurs en danger, hein, entre 13 et 25 ans qui venaient à nos concerts. C'était ça la logique. Après, sur la réalité du danger, évidemment, on devenait un peu paranoïaque à force de se dire qu'on est suivi. Enfin, moi, j'ai été approché à un moment donné par des gens, je ne savais pas s'ils n'étaient pas dans les RG. C'était des approches assez bizarres dans le métro, à titre personnel. J'étais très, très méfiant, donc je faisais attention. On a eu aussi ce rapport après le concert du Zénith de mars 88, ce que dit Boris, qui était le gérant du Zénith, qui avait eu un rendez-vous avec les renseignements généraux, qui lui demandait les plans de la salle pour savoir si 5000 agités sortaient tout d'un coup de la salle pour se rendre, genre gilet jaune, à l'Élysée, qu'est-ce qui allait se passer. Donc il y avait quand même une surveillance accrue de l'État sur nous, sur nos prises de position politiques, sur notre faculté à mobiliser une partie de la jeunesse dans des manifestations. Voilà, je vous rappelle pas tout le contexte, mais il y avait Malik Oussekine, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées en fait en France dans la France des années 80. On a un peu oublié, et là je pense que des documentaires vraiment recontextualisés seraient vraiment intéressants à faire pour souligner cette dangerosité qui existait dans la jeunesse, qui était paradoxalement, notre jeunesse était très très bigarrée et très multiethnique et très féminine aussi. Si vous regardez un peu, d'ailleurs, on le voit un petit peu dans les documentaires de Lina, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont devant la scène et ça, c'est quelque chose qui a un peu disparu après et qui est revenu avec le mouvement Riot Girls un peu plus tard par les États-Unis. Donc, je crois que cette idée du politique, elle est très très importante. Et nous, en tant que groupe, je pense qu'à un moment donné, on a voulu se fondre en fait dans le public. Hein, l'autodissolution, elle vient de ça, c'est que on était en fait à hauteur de public. On avait le même âge que les gens qui venaient. Donc on n'avait pas envie du tout d'être des leaders, comme tu le disais, enfin, de se prendre pour ni des leaders ni des par rapport aux autres groupes. Voilà. On avait très bonnes relations avec de plein de groupes intéressants. OTH, c'est un groupe que j'ai adoré. Bon, on avait des relations un peu plus compliquées avec La Souris, pour des raisons de public. Des bonnes relations avec Caméra Silence aussi. On avait joué avec eux à Poitiers. C'était vraiment des voyous de Poitiers, donc c'était assez dur. C'était un peu rough comme voilà. On avait des...
Parabellum.
Vraiment un grand groupe, des gens avec un cœur en or. Bah tu vois, Papa Schulz, ouais, c'est la première personne qui m'a appelé directement quand Concerto et Détraqué est sorti. Il y avait un numéro de téléphone qui était le numéro de chez ma maman. Il a appelé et c'est le seul mec du mouvement alternatif qui m'a appelé pour me dire: François, ton album, enfin votre album, il m'a mis une claque. C'est voilà. Et venant de sa part, ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est un groupe qu'on a adoré, avec qui on a joué.
On a fait une tournée aussi au Québec.
On a joué au Québec aussi.
Avec Parabellum.
Et on a. Voilà. Donc il y avait des groupes avec qui on avait vraiment tout de suite une très très bonne entente, et puis d'autres avec lesquels on était plus distants. Mais bon, ça existe partout, comme partout. Hein. Moi, j'étais moins sur des aspects festifs à la Ludwig ou Washington Dead Cats, mais n'empêche qu'on avait de très bonnes relations entre nous. Après, c'était un peu plus tendu avec les satellites parce qu'on trouvait ça, c'était trop mainstream et trop, voilà, trop gnangnan. Mais ça fait partie de...
Ouais. On va prendre une dernière question parce qu'il faut prendre la suite.
Voilà, quelqu'un qui faisait partie du SO Beru. Dom. Je suis bien.
Ouais, non,
ouais, c'est ça. J'aurais pu citer Sardou aussi.
Ça t'aurait fait plaisir, ça. Hein.
Non, c'était par rapport à... Ouais, au débat que tu soulevais, François, vite fait, sur la façon de classifier les archives et tout, pour les archives, ouais, pour étudier les marginaux, machin... C'est généralement les archives de la répression, les archives des keufs et tout. Et là, du coup, voilà, vous déposez des archives et tu soulevais la question de ouais, merde, on donne à l'État
un pan de notre vie.
Beaucoup de données, beaucoup de... Et ouais, ça aurait été cool d'en avoir encore plus. Mais après, tu soulevais les débats qui, vite fait, qu'il y avait eu au niveau de comment on se positionne vis-à-vis de vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de... Parce que nous, on est pareil, enfin, genre, en mode, ouais, essayer de récolter des archives du collectif, de machin, mais en mode...
En mode alternatif, tu veux dire.
Ouais, mais tu t'évoquais tout à l'heure vite fait des embrouilles vis-à-vis de... Mais peut-être que t'as pas envie de revenir dessus, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je trouvais ça assez intéressant. Le truc, on collabore avec les temps, on leur file toutes nos données. Et nous, on a le même genre de questionnement.
Tu transmets un savoir-faire aussi. Tu vois, on parlait du do it yourself, tu transmets aussi quelque chose d'important, à mon avis, dans la scène punk. Après, c'est une vraie question, hein. Je me suis posé la question, est-ce que tu ferais pas mieux de donner ça au CIRA à Lausanne, dans un centre anarchiste qui gère depuis des décennies de la documentation sur les anars? Voilà, c'est vraiment une question problématique pour moi, en réalité. Mais moi, le choix de la BNF, il est venu un peu naturellement. J'ai fait ma thèse grâce au fonds légal, le dépôt légal de l'Indochine, qui est déposé ici. J'ai travaillé beaucoup, à cette époque-là, dans les centres d'archives un peu partout en France, aux archives de militaires de Vincennes, aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, aux archives diplomatiques à Nantes ou à Orsay à l'époque, près du musée d'Orsay à l'époque, et donc aux Invalides. Il existe des institutions qui peuvent restituer une partie de notre mémoire et de notre travail. Voilà, donc en plus, c'était pas que Beru, il y avait Molodoy, il y avait d'autres choses, donc c'était un peu compliqué de dispatcher, de dire ou de jeter, parce que mais tu as raison, ça a été un gros discours entre nous. Quand on a dit ça, Laurent, il a dit, mais c'est quoi ce délire, vous donnez vos trucs, là, il était opposé. Et je pense qu'il reste opposé. Il préfère faire un feu de joie dans son jardin, mobiliser les druides, voilà. Mais moi, je respecte ça.
Tu me fais rire quand même.
C'est pas ma socioculture. Je suis pas comme ça, quoi.
Ouais, merci beaucoup pour cette réponse. On va devoir clore la discussion sur ce fonds d'archives pour pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup à tous les intervenants.
On va vous envoyer. On va envoyer un dernier titre qui correspond bien à l'époque, et je trouve qui représente bien aussi la troupe, ce qu'était ce travail collectif qu'on a fait tous ensemble. Je crois qu'il y a l'année prochaine. Il y a un autre. Ça va ? Le truc, tu l'as annoncé ? Tu voulais passer une clé ? Ouais, tu peux l'annoncer ? Ouais, on l'a annoncé. Okay. Donc on passe juste le clip SOS que peut-être vous connaissez, mais on le repasse ce soir.
Jeune soldat sur son lit d'hôpital, la tête bornée comme une momie. Et que je crevais derrière de grosses lunettes noires, technique de combat, opération de survie. Et dans sa tête tout mutilé, et puis les images dont il est hanté. Et dans sa tête tout enveloppé, il pleut les images comme de la boue glacée.
S.O.S.
Ce drapeau de la colère,
S.O.S.
Pour des polices en terre,
S.O.S.
La police et la guerre,
S.O.S.
C'est une amie de frère. Alerte, 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 sur le bombes en palme. Alerte, alerte, il pleut en Afghanistan. Alerte, alerte, les gaz et des défoyants. Alerte, alerte, il pleut sur le Nicaragua. Des jouets piégés, mais dis-moi ça. Alerte, alerte, il pleut sur le Liban. Sur les Palestiniens, c'est une œuvre innocent.
S.O.S.
C'est pas chaud ni macho.
S.O.S.
C'est son bien qui baisse.
S.O.S.
Si ça mine la palme.
S.O.S.
International. Alerte, alerte, petit lance-libéry. Mais je dis qu'on met tout pour les filles. Alerte, alerte, il pleut sur le Chili. Les coups de malade jusque dans ton lit. Et tiens dans mes îles au royaume des Isanis. Le ciel est du peux pas parler, c'est tu vas penser.